I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Oh, ça swing.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ».
Salut, c'est Mimi, la rédactrice en chef de mademoiselle.com. Dans cet épisode de 20 ans d'âge, je reçois Sam, que j'ai découvert comme toi lors de sa participation à Koh-Lanta 2020. Sam, tu sais, c'est le Benjamin de l'aventure, comme l'appelle Denis Brognard, un drôle de mec de 20 ans, ultra préparé, focus sur ses objectifs et en totale admiration devant les héros des éditions précédentes de Koh-Lanta. C'est ce petit mec de 20 ans qui a fait du feu pour son équipe en 2 minutes 30, mais qui a eu du mal à connecter avec les autres aventuriers et qui a fini par être éliminé. Mais Sam, ce n'est pas que Koh-Lanta. C'est aussi un citoyen de 20 ans comme il en existe plein, qui a grandi dans la campagne alsacienne, étudie l'ébénisterie et s'apprête à rejoindre l'armée. Dans cet épisode de 20 ans d'âge, on parle de Koh-Lanta bien sûr, mais aussi de ses ambitions, de son rapport aux adultes plus âgés que lui, de son rapport au futur, et on parle même de Robinson Crusoe. Cet entretien a été enregistré pendant le confinement, donc à distance, la qualité sonore est un peu en dessous de ce à quoi tu es habitué dans les podcasts de Mademoiselle, mais personnellement j'étais très contente de cet entretien avec Sam et je pense que tu auras quand même du plaisir à l'écouter, en tout cas j'espère.
Du coup, ma première question, elle est plutôt large, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 20 ans.
Ben 20 ans, je dirais que moi en tout cas, je suis pas encore adulte mais je suis plus encore adolescent, je pense que je suis entre les deux. Je pense que je fais des choses comme un adulte, mais après je reste encore un petit peu plus jeune quand même. En fait, voilà, je suis entre les deux, je pense.
Est-ce que tu as des exemples de ces choses que tu fais comme un adulte et des exemples d'aspects peut-être un peu plus encore grand ado de ta vie?
Exemple que je fais comme un adulte, rouler en voiture, par exemple, j'en sais rien, jardiner, travailler dehors. Les études par exemple, ben voilà, comme un adulte, mais après comme un plus jeune, je dirais regarder la télé donc c'est vraiment très compliqué en fait à répondre parce que en fait je suis totalement simple en fait, j'ai une vie très très simple et puis comme on peut s'imaginer comme n'importe quel citoyen en fait. C'est pour ça que c'est pas évident de répondre.
Oui, je comprends. Tu vis encore chez tes parents?
Oui, bien sûr. Ouais, avec ma sœur et puis mes parents, ouais. Enfin non, plus ma sœur mais mes parents, ouais.
Et tu vois, il y a plein de gens qui, en gros, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils sont majeurs ou dès qu'ils ont le bac, ils partent de chez leurs parents pour gagner un peu en indépendance. Il y en a d'autres qui, comme toi, continuent à y vivre. Qu'est-ce que ça te fait de continuer à vivre chez tes parents?
Puisque c'est une habitude, en fait, ça me fait rien. En fait, je dirais que, en fait, parce que j'ai pas besoin, en fait, d'aller vivre autre part, puisque les études que je fais ne sont pas si loin de du lieu où j'habite, donc c'est toujours bien de pouvoir voir ses parents, etc. Mais maintenant, s'il fallait partir plus loin et habiter plus loin tout seul, je pense pas non plus que ça me dérangerait vraiment, quoi. Je veux dire, les deux me vont très bien.
Tu mentionnes tes études à plusieurs reprises, et moi, ça m'a intriguée dans ton portrait dans Koh-Lanta, quand tu expliquais que tu étais donc en formation d'ébénisterie, mais que tu voulais faire l'armée. Le premier truc que je me suis demandé, c'est pourquoi tu fais ébéniste, du coup, pourquoi t'es pas déjà à l'armée?
Tout simplement puisque j'ai toujours aimé le travail du bois et puis les travaux manuels en fait. Enfin, je suis plus manuel que j'ai jamais en fait aimé vraiment rester assis longtemps sur une chaise à l'école et tout ça. J'ai toujours voulu faire un bac professionnel. Mmh. Et le bois, j'ai toujours aimé parce que c'est une matière noble à travailler, etc. Et puis, je me suis lancé dans la menuiserie pour avoir déjà un métier. Et puis, après, voilà, j'avais toujours comme objectif d'être un militaire. Mais au moins, j'aurais toujours un métier derrière moi. Et puis, j'ai appris à faire quelque chose de mes mains, quoi.
Et avec le recul, du coup, est-ce que c'est, maintenant que tu l'as un peu plus expérimenté, est-ce que c'est un métier que tu te verrais faire? Est-ce que tu as appris des choses sur le métier de menuisier qui t'ont surpris? Est-ce que tu te projettes dans cette vie, potentiellement?
Alors, non, je ne me projette pas dans cette vie, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup, puisque des études de menuisier, en fait, on touche un peu à tout, pas qu'au bois, donc forcément, on travaille avec d'autres matériaux, du plastique, même du métal, des fois, donc... c'est vrai que c'est vraiment très large. Donc, une fois qu'on touche au bois, j'ai pas envie de dire qu'on sait tout faire, mais j'ai envie de dire que on touche vraiment à plusieurs choses différentes. Et puis, ça permet d'être assez polyvalent dans les travaux manuels, que ce soit dans le bâtiment et puis même dans la mécanique, dans plein de choses en fait.
Ok. Et du coup, l'armée, c'est toujours un projet pour après ?
Ah, bien sûr. Oui, bien évidemment, oui. C'est mon projet, et puis je me lancerai quand j'aurai terminé mes études.
C'est quand que tu seras diplômé?
Fin d'année.
Okay.
Confinement, etc. Enfin, ça, je ne sais même pas encore comment ça va se passer, parce que c'est assez compliqué. Ouais. Ce que je fais, c'est assez compliqué, mais normalement, fin d'année.
Ok, donc tu es tout prêt de pouvoir te lancer dans, j'ai l'impression, la carrière qui te fait quand même un peu plus vibrer, qui est la carrière de militaire?
Ouais, cette carrière, bien sûr, m'a fait vibrer, mais... j'ai encore beaucoup de temps devant moi, en fait, donc j'ai pas envie de dire que je suis pressé, voilà.
Ok,
faut préparer. En fait, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut préparer les choses, hein. Comme Koh-Lanta, c'est pas quelque chose qu'il faut, selon moi, se lancer sans avoir réfléchi avant, quoi.
Et du coup, comment tu te prépares donc on parlera aussi de ta préparation pour Koh-Lanta, parce que ça m'intéresse beaucoup.
D'accord, très bien.
Ouais. Mais du coup, tu compares ça à te préparer pour ton futur à l'armée, comment tu te prépares à peut-être intégrer du coup l'armée?
Bah forcément, l'armée, c'est le sport, mais c'est aussi psychologique, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte pour ça, mais surtout, ouais, sportivement, c'est la première des choses que je fais. Maintenant, comme dit, je suis dans mes études, donc je dirais pas encore qu'il y a eu la grande préparation militaire pour ça, hein. Mm-hmm. Mais le jour où ce sera le cas, ben oui, je me lancerai à fond là-dedans, quoi, c'est clair.
Et je me demande, comment t'étais quand t'étais adolescent, donc il y a quelques années, il y a pas si longtemps, t'étais quel genre d'ado?
Un ado tout à fait normal. Après, c'est vrai que j'étais pas... j'ai envie de dire tout à fait normal, très calme, et puis... comme on peut le voir à Koh-Lanta, j'étais pas du genre à m'énerver avec les autres et puis à essayer de m'imposer devant les autres, à essayer de créer des histoires, etc. En fait, ça m'a jamais intéressé. Mais oui, un adolescent tout à fait normal qui faisait du sport, qui faisait des études et puis tout simple citoyen tout à fait normal.
Parce que c'est quand même fou, je trouve, cette justement, ce calme et cette détermination que tu as, où vraiment tu as un objectif et tu te le fixes et tu fais ce qu'il faut pour y arriver sans te laisser trop parasiter finalement par le monde extérieur et les autres gens. Tu penses que ça te vient d'où? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tes parents ils sont comme ça? Est-ce que ta sœur elle est comme ça?
Non, honnêtement, je pense que c'est. Mon éducation, la bonne base que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais déjà tout petit, ça a beaucoup joué, mais je pense que c'est aussi naturel, hein, et puis c'est. Je pense aussi le lieu où je vis. Je pense, c'est des hypothèses. J'habite en campagne et tout ça, donc peut-être que ça n'aurait pas été pareil si j'avais été élevé en pleine région parisienne. J'aurais peut-être fréquenté d'autres personnes, fait peut-être d'autres activités. Mais là, le fait en fait d'être au calme, etc. Peut-être que ça m'a un peu ouvert un peu plus l'esprit. Je sais pas. Je présume, mais oui. En premier lieu, c'est l'éducation, ça c'est sûr.
Tu les décrirais comment, tes rapports à tes parents? T'en as parlé un petit peu dans Koh-Lanta, tu leur as notamment rendu hommage. Et y a beaucoup de gens de 20 ans qui ont des rapports un peu plus conflictuels, on va dire, avec leurs parents, voire très conflictuels, mais toi ça a l'air d'aller. C'est quoi ta relation avec tes parents?
Alors, encore une fois, la relation avec mes parents, c'est une relation... en fait, je sais pas l'expliquer, mais je dirais tout à fait normal. Disons que je suis attaché à mes parents, mais je veux dire, je pourrais m'en passer aussi. C'est-à-dire, voilà, ça m'a pas dérangé de partir à Koh-Lanta, et même s'il fallait rester un an je veux dire, ça m'aurait absolument pas dérangé, puisque quand on fait les choses qui nous plaisent, on a envie d'y rester, enfin de les faire pendant longtemps. Enfin, c'est dur à expliquer, mais je veux dire, c'est j'ai pas un grand manque comme certains avaient à Koh-Lanta, au point où à y penser tous les jours, etc. Franchement, je vous dis honnêtement, quand j'étais à Koh-Lanta, j'y pensais même plus. Enfin, ça m'arrivait pendant l'épreuve, parce que bon, ça c'était un petit peu différent, mais je veux dire, en général, je savais que j'allais pas le voir, etc. Donc, je me posais même pas cette question. Donc, la relation, c'est, je suis attaché, mais pas non plus hyper attaché à ne pas pouvoir m'en passer, quoi.
Bon, ça m'a l'air plutôt pragmatique comme façon de voir les choses. Tu pensais à quoi, du coup, pendant Koh-Lanta? Qu'est-ce qui tournait dans ta tête pendant ton séjour dans l'aventure?
Alors, absolument pas tout ce qui se passait en France. C'est-à-dire, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de manger, etc. Enfin, manger, si, ça, forcément. Mais je veux dire, je pensais pas du tout à mon confort qui me manquait. Ou voilà, j'étais vraiment dans ce que j'avais envie de faire et dans ce que je rêvais de faire. Donc, c'était très bien comme ça. Je pensais surtout à mes objectifs. Et puis, j'essayais... mon but, en fait, était d'avoir le plus de souvenirs possible en rentrant chez moi. Donc j'ai vraiment tout oublié, tout ce que je faisais avant, etc., pour vraiment penser qu'à Koh-Lanta et vraiment à l'aventure que j'étais en train de vivre, quoi.
Est-ce que tu peux me parler d'un de ces souvenirs que t'as ramené et qui peut-être se détache un peu des autres?
Oui, et je suis sûr et certain que je suis le seul qui garde ce souvenir comme étant le meilleur. C'est le quand les héros sont arrivés le troisième jour sur la plage. Mm-hmm. Voilà, je sais que je suis le seul qui a gardé ça comme un moment exceptionnel, puisque bon, la plupart, en tout cas de mon équipe, ne les connaissaient presque pas. Ils m'ont tous questionné après pour me dire: ah oui, c'est qui lui. Donc déjà là, j'ai senti que ça les avait pas tellement marqués. Moi, c'était le plus beau jour de l'aventure, et puis c'est un souvenir, hein, qui reste gravé, et, parce que c'était tellement bien fait, c'était tellement bien mené, que quelqu'un comme moi, qui suis fan du programme depuis mon plus jeune âge, voilà, c'était forcément exceptionnel.
Et du coup, à ce moment-là, tu les vois pas comme une potentielle menace ou comme un danger pour...
Exactement. En fait, c'est exactement ça. Je pense que la plupart les ont vus comme une menace et ont peut-être été un peu impressionnés, mais en même temps, ils se sont dit: ah, ça nous arrange peut-être pas trop. Moi, en fait, à aucun moment, je me suis dit: ah mince, ça va être compliqué, les épreuves, j'ai envie de les éliminer. Moi, franchement, absolument pas. J'avais qu'une seule envie, c'est qu'ils intègrent au plus vite nos équipes pour que je puisse profiter de l'aventure avec eux, quoi.
Oui, j'ai l'impression que tu t'es, dès que Moussa a rejoint ton équipe, il a pris un peu un rôle de mentor par rapport à toi. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il y a des jeunes mecs de 20 ans qui sont pas à l'aise avec le fait d'avoir des mentors, tu vois, qui sont plutôt dans le style: je vais me faire tout seul, j'ai pas besoin que tu me donnes des leçons. Et toi, j'ai l'impression que t'as très vite accepté, très naturellement, ok, apprends-moi des trucs.
Bah oui, en fait, faut savoir que avant que Moussa arrive, j'étais dans une position assez compliquée, puisque voilà, il y avait une grosse alliance avec, j'ai envie de dire, tout le reste de mon équipe, sauf peut-être Valérie qui elle était plutôt là vraiment comme moi pour vivre une aventure un peu solitaire, ou je sais pas, mais qui n'avait pas forcément la même vision du jeu que les autres. Puis donc forcément, quand Moussa est arrivé, il m'a un peu pris sous son aile et il m'a un peu aidé, puisque je serais probablement sorti au deuxième épisode. Voilà. Après, est-ce que c'était un prétexte ou pas, je sais pas forcément si on m'aurait éliminé, puisque m'éliminer moi à la place de Benoît ou de Valérie, je pense que ça aurait été peut-être une erreur, étant donné que les deux étaient quand même, cette aventure était un petit peu plus dure pour eux quand même.
Je pense. Au niveau physique, tu veux dire, par rapport à toi.
Voilà, c'est ça.
Et comment t'as vécu le fait de... C'est quand même particulier d'intégrer une équipe et de, bah, comme tu dis, il y a quasiment toute ton équipe qui est pas vraiment dans ton camp, qui est pas vraiment dans ton équipe. Émotionnellement, comment tu l'as vécu?
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Alors en fait, j'ai expliqué ça en disant que j'avais une vision du jeu et de l'aventure différente de la leur. C'est-à-dire que pour eux, c'était discuter avec les autres, passer des moments autour du feu, s'ouvrir et raconter un petit peu sa vie, j'ai envie de dire, mais moi je peux pas faire ça, je peux pas raconter ma vie à quelqu'un que je connais à peine et à qui je ne peux pas faire confiance. J'ai déjà même du mal à raconter ma vie aux gens que je connais, donc je peux encore moins le faire aux gens que je connais pas. Donc ça a été très compliqué, mais c'est vrai que pendant que j'étais dans le jeu, je me suis dit, quoi qu'il arrive, même si je dois partir demain, ou voilà, au moins je veux pas avoir de regrets et pas m'être dit, à ce moment-là, j'avais perdu du temps à discuter avec eux, plutôt que d'avoir vraiment envie, d'avoir vraiment fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire d'aller pêcher, etc. Donc, je me suis pas posé la question. Après, c'était peut-être une erreur, ça a été d'ailleurs une erreur aussi de pas avoir passé plus de temps à communiquer et tout ça, mais je sais pas vraiment si mon sort dans l'aventure aurait été différent, quoi.
Mmh. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu ressors de Koh-Lanta en te disant que... Enfin, je pense que cette aventure a forcément changé des choses pour toi parce que c'est assez unique. Mais est-ce que t'en es sorti en te disant, bon, je vais peut-être bosser un peu plus sur ma sociabilité puisque j'ai une partie de mes coéquipiers qui m'ont reproché ça? Ou est-ce que je vais rester comme je suis et Koh-Lanta, c'est arrivé et c'était génial, quoi?
Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis quand même beaucoup plus jovial, en fait,
oui, j'imagine. Ça s'entend déjà rien que là.
Voilà. Non, en fait, c'est qu'à Koh-Lanta, tout simplement, comme je regarde chaque année cette émission, forcément, je savais que des candidats étaient là et mettaient un peu des jeux de rôle entre eux. Enfin, voilà, savent bien faire semblant, etc. Et puis, j'avais vraiment pas envie de me faire berner. Mmh. Et je voulais tout de suite leur montrer que j'avais mon idée de mon aventure. Et que c'est pas eux, puisque je suis le plus jeune, qui allaient me guider, me dire, voilà, m'expliquer des choses. D'ailleurs, c'était plutôt moi qui avais des fois envie de leur expliquer les choses. Mais le souci, c'est que si je faisais ça, je me serais sûrement fait incendier, puisque en étant plus jeune, c'est assez compliqué que d'expliquer des choses à des gens qui sont plus âgés que vous. Mais c'est vrai que travailler le social, ça, c'est sûr que je l'ai retenu. Maintenant, ça dépend de qui, hein. Parce qu'il y a beaucoup de prétextes aussi à Koh-Lanta, mais la manière dont Théora me l'a expliqué, c'est cette manière que je vais travailler de cette façon, mais pas assez clair l'autre manière que m'ont expliqué les autres candidats, ça c'est sûr.
Est-ce que tu pourrais expliquer comment Théora t'a pitché entre guillemets sa vision de la sociabilité?
Théora, en fait, il m'a dit de m'ouvrir plus, mais de vraiment toujours s'occuper l'esprit sur le camp, c'est-à-dire de s'ouvrir tout en étant actif, tandis que les autres c'était plutôt viens t'asseoir à côté de nous, raconte-nous ta vie et tout ça, alors que moi je suis persuadé qu'ils en avaient totalement rien à faire que je leur raconte ou pas ma vie. C'était simplement un prétexte, parce que forcément quand on voit quelqu'un sans lancer des fleurs, hein, mais qui est beaucoup plus préparé et qui est très déterminé quand on le ressent, forcément on a toujours des défauts à trouver. Dès qu'on peut enfoncer quelqu'un ou le rabaisser un peu, forcément on va trouver des défauts, on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et Théora, lui, m'a vraiment expliqué qu'il suffit de s'ouvrir un peu, de vraiment partager ses connaissances, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire de pêcher, mais de le faire avec les autres. Mais pas forcément de s'asseoir ou d'aller se baigner avec les autres candidats, quoi.
Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en dehors de Koh-Lanta, quand tu me disais parfois c'est compliqué d'expliquer des choses à des gens plus âgés? Est-ce que en tant que mec de 20 ans, t'as l'impression que on a plutôt tendance à te prendre un petit peu de haut avec un peu de paternalisme, même bienveillant, parce que t'as 20 ans? Ou est-ce que, enfin, en gros, est-ce que t'as hâte d'être plus vieux pour qu'on arrête de t'expliquer la vie?
Oui, non. Je suis très bien comme ça. J'ai pas hâte d'être plus vieux. Non. D'ailleurs, c'est une question que je me suis jamais posée, mais Non, je dirais pas que j'ai hâte d'être plus vieux, parce que chaque jour on apprend des choses, donc j'apprends au fur et à mesure, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, que ce soit dans les travaux manuels ou par rapport même à Koh-Lanta, en visionnant les images de Koh-Lanta, mais non, j'ai vraiment pas hâte d'être plus vieux, je préfère que le temps passe à sa vitesse habituelle, j'ai envie de dire, et puis voilà, c'est tout.
Ok. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ta préparation pour Koh-Lanta. Moi, c'est okay. Quelque chose, en tant que téléspectatrice, qui me surprend toujours les gens qui viennent à Koh-Lanta pas préparés. Je me suis toujours dit que si j'y allais, j'apprendrais plein de choses avant pour savoir.
Du coup, ça me rassure quand même. Ouais.
Quand toi, t'arrives et que t'es, il me semble, de ton équipe, en tout cas, le seul à être vraiment préparé, à avoir appris à faire du feu, etc., est-ce que tu t'attendais à ça?
Ben, en fait, j'attendais pas à ce que ça se remarque de suite. C'est-à-dire que là, on l'a remarqué, dès qu'en fait, je suis monté sur le bateau le jour du naufrage. D'ailleurs, on l'a vu dans le premier épisode. Certains ont déjà dit, ah oui, Sam, il est prêt depuis 4 jours, Sam, il est prêt depuis, et là, je me suis dit, mais comment? Alors que, justement, je ne parlais pas puisque je ne voulais pas forcément, m'ouvrir, me dévoiler parce que voilà, c'est le premier jour et puis, je me retrouve avec des inconnus, donc, et là, on m'avait déjà un peu grillé en quelque sorte. Donc forcément, arrivé sur le camp, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant se lâcher. Et puis, après, je me suis dit, si déjà c'est fait, je vais pas me cacher maintenant, je vais pas faire lentement, je vais tout faire à fond. Et ça, je le regrette pas aujourd'hui. Maintenant, ouais, je pensais pas que ça allait être si flagrant qu'on le remarque aussi vite, quoi. Ça, c'est sûr et certain.
Comment t'as géré ta préparation? J'imagine qu'il n'y a pas de manuel faire un bon Koh-Lanta, quoique peut-être. Du coup, comment t'as décidé? Est-ce que t'as été aidé par des gens dans ta vie qui peut-être t'ont appris des choses? Comment t'as géré ta préparation à Koh-Lanta?
Alors, je vais vraiment être honnête en toute franchise. Koh-Lanta, je l'ai préparé absolument tout seul.
Okay.
D'ailleurs, je me serais pas permis de le faire avec quelqu'un, puisque je n'ai raconté à personne que j'avais envie de faire Koh-Lanta, donc c'était vraiment seul à faire beaucoup de sport et puis essayer de faire du feu, du tir à l'arc, etc. Mais c'était voilà une préparation, comme dit, c'était jamais quelque chose de compliqué ou quelque chose de focalisé. Je mets les études avec ça, donc voilà, c'était tout simplement les bases de la survie. Et puis un candidat m'avait beaucoup marqué avec la préparation, c'était Freddy.
Mmh.
Et puis, parce que pour moi, c'est un peu l'aventurier type de Koh-Lanta, même si voilà, beaucoup vous diront qu'il n'avait pas de social, etc. Pour moi, le social, c'est un prétexte. En même temps, c'est nécessaire, mais en même temps, c'est un prétexte, j'ai envie de dire, puisque Koh-Lanta, avant d'être un jeu de stratégie, c'est un jeu d'aventure et de survie pour moi.
Mmh.
Et ça restera toujours ça, quoi. Ça, c'est sûr.
Je suis surprise quand tu me dis que tu as dit à personne que tu voulais faire Koh-Lanta. Du coup, parmi tes proches, personne ne savait que tu étais en train de préparer Koh-Lanta.
Si, forcément, mes parents étaient au courant, mais je veux dire, personne, ça c'est sûr, non, j'ai dit ça à personne.
Ok, t'as des amis proches ou une bande de potes?
Bah oui, forcément, oui, mais pas, je dirais pas que j'ai des meilleurs amis, des gens avec qui je pourrais pas me passer de parler pendant, oui, bien évidemment, et je pense que la question c'était, est-ce que je leur avais dit? Ben non, forcément, je leur ai absolument pas dit. D'ailleurs, il y a même des gens qui se sont vexés, mais tant pis pour eux. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Enfin, non, mais c'est vrai. Hein.
Non, mais oui, t'as le droit de vivre.
J'aurais jamais pris le risque de casser mon rêve pour quelqu'un d'autre, ça c'est sûr.
Pourquoi c'était un risque de dire à tes proches, je m'entraîne pour Koh-Lanta? Enfin, à tes proches, à tes potes, en fait.
Ben, puisque c'est quelque chose qui ne se dit pas, et puis, non, je peux pas me permettre de faire un peu des fuites comme ça et de mettre en péril toute une préparation ou un truc. Non, et puis même, je vois pas en quoi ça les regarde, j'ai envie de dire, c'était mon truc, et puis voilà, j'avais pas envie de le raconter. Je trouvais que c'était encore plus joli que de le garder pour soi. Enfin, après, c'est une vision un petit peu particulière, mais moi je trouve que c'est un peu le truc que j'ai et que les autres n'ont pas et que je suis fier d'avoir, quoi.
Mmh. Non, je comprends, c'est précieux, quoi. C'est juste à toi et
c'est exactement ça. C'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever et j'en suis très fier.
Est-ce qu'il y avait, j'imagine que même si t'étais préparé et que t'as l'air d'avoir un mental solide, j'imagine qu'il y avait des moments plus durs que d'autres, ne serait-ce que la faim, la pluie, les nuits compliquées. Est-ce que t'as senti ton corps qui quand même touchait des limites pendant l'aventure?
Alors encore une fois, en toute honnêteté, en toute franchise, je savais avant de partir en fait que j'allais forcément avoir très faim, que j'allais pas forcément dormir, et je me suis tellement dit ça et répété ça en arrivant là-bas, je me suis même surpris à me dire finalement j'ai pas envie de dire que c'était moins compliqué que ce que je pensais, mais j'étais tellement préparé qu'en fait, je le gérais très bien. Je le gérais absolument très bien. Alors forcément, j'avais faim, hein, j'avais bien envie de manger des steaks pendant le jeu et tout ça, mais je pense que je le gérais mieux que d'autres, puisque c'était pour ça que j'avais fait Koh-Lanta quelque part. C'était aussi pour la survie. Et puis, quand on sait qu'on va avoir faim, qu'on va pas revoir ses proches, on n'a pas le droit de se plaindre, en fait, parce que j'ai décidé de faire ça. Mmh. Donc, à partir de là, je peux m'en vouloir qu'à moi-même si j'ai envie d'arrêter ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair que ça ne m'a pas dérangé. Le côté survie, le côté est-ce que mon corps va me suivre et tout ça, je me suis absolument pas posé cette question, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es surpris, où tu as peut-être découvert des choses sur toi-même, ou est-ce que finalement... tu y es allé et t'étais comme tu pensais être.
Alors moi, je ne me suis absolument pas surpris, mais les autres m'ont beaucoup surpris. C'est-à-dire les autres candidats, certains dans tous les domaines. Hein, je parle sportivement, mais aussi la manière de réagir. Souvent, les réactions de personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous. Quand je voyais certaines réactions, certains comportements, ouais, ça m'avait beaucoup surpris qu'à cet âge-là, on puisse encore réagir de cette façon. Mais moi, non, à aucun moment, je me suis surpris dans l'aventure.
Je pense qu'avec ou sans Koh-Lanta, devenir adulte, c'est aussi se rendre compte que les adultes sont parfois plus immatures que les plus jeunes, on va dire, ou gardent des comportements qu'on n'imagine pas assez.
Ah ben non, forcément, je dirais pas oui à ça, parce que ça voudrait dire que mes camarades seraient immatures, donc non, ça je peux pas me permettre.
Ah oui, non, bien sûr, je veux pas te faire dire. Ouais,
oui. Non.
Je ne veux pas te poser de problème.
Ils sont toujours plus matures que moi, puisque moi j'ai 20 ans. Mais sur certaines choses, je pense que j'étais un peu plus réfléchi et plus. Forcément, en fait, quand vous mettez des gens dans un jeu qui sont manuels dans la vie, ou je sais pas, qui sont patrons, ou je ne sais rien de quelle entreprise, et puis vous mettez quelqu'un qui est manuel, forcément, ça va être les manières de faire sur le camp vont être complètement différentes. Mmh. Et c'est ça qui a été très dur avec certains candidats, c'était d'avoir tellement envie de leur dire mais ne fais pas comme ça, c'est absolument pas comme ça qu'on fait, mais on peut pas le faire, on peut pas, c'est des choses qu'on peut pas faire, et c'est ça aussi qu'on apprend, c'est que faut vraiment se retenir. Et s'il y a une chose où je suis bien content, c'est qu'à aucun moment je me suis énervé avec quelqu'un, et à aucun moment j'ai parlé fort sur quelqu'un, ou voilà, et ça j'en suis très fier. C'est vraiment c'est comme je l'avais prévu, et puis ça s'est très bien passé.
Oui, je comprends. Je comprends qu'on soit fier de ne pas s'être énervé dans une situation en plus aussi particulière que des jours et des jours avec des inconnus dans un contexte quand même assez unique. Est-ce que tu aimerais bien refaire Koh-Lanta ? Ou est-ce que c'était le rêve, tu l'as fait, et ça s'arrête là ?
Alors, Koh-Lanta, je l'ai fait. Donc oui, le rêve, il a été fait. Il a été un peu coupé. Maintenant, est-ce que je vais refaire Koh-Lanta ? Ça, je peux pas vous dire, puisque je suis en plein dans mes études. J'ai d'autres projets encore, donc je peux pas vous dire l'avenir. En fait, je peux pas savoir ce qui se passera dans l'avenir. Donc c'est une question assez compliquée, en fait. C'est assez compliqué à répondre, puisque je ne sais pas de quoi sera fait demain, quoi.
Pour parler un peu plus largement de l'avenir, est-ce que tu... Alors, j'ai bien compris que tu préfères ne pas parler précisément de tes projets professionnels. Mais ouais. Est-ce que tu dirais que ton rapport à l'avenir, il est plutôt positif, plutôt serein, plutôt angoissé ? Notamment, je sais qu'on est dans des générations pour qui c'est compliqué parce que la planète ne va pas très bien. Là, on est en pleine pandémie. Enfin, il y a des gens de ton âge ou de mon âge qui est quelques années de plus que toi qui sont très pessimistes par rapport à l'avenir. Comment toi, tu vois le futur ?
Je vois du positif. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais... sortir de ce confinement et puis reprendre la vie tout à fait normale. Je le vois positif, hein. Je ne me vois pas penser négatif et dire ça se passera pas bien, etc. Je le vois vraiment positif. Et, reprendre les études, reprendre tout comme avant, c'est déjà très très positif, c'est déjà très structuré. Donc, je vois pas pourquoi je le verrais négatif, quoi.
Est-ce que tu penses que ta vie va te mener vers... refaire des expériences de survie, d'aventure, re-rencontrer cette partie de toi qui, du coup, a vraiment vécu comme Koh-Lanta comme un jeu de survie et d'aventure plutôt qu'un jeu de stratégie. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revivre, ce truc d'être un peu seul face à la nature avec tes propres ressources ?
Ah, oui, clairement, ça, c'est quelque chose, forcément, ouais. C'est, un peu le mythe de Robinson Crusoe, mais c'est clair, si par exemple demain on me disait tu vas faire le tour du monde et puis tu vas rencontrer d'autres civilisations, etc., ben c'est clair que j'y vais à pied levé, même sans nourriture, sans rien, c'est clair que je le ferai. Maintenant, c'est vrai que être sur une île tout seul comme Robinson Crusoe et puis essayer de se débrouiller vraiment seul, je pense que c'est une expérience qui serait assez intéressante, puisqu'à Koh Lanta on est plusieurs, mais je pense que ça serait encore plus compliqué, je dirais même, d'être vraiment vraiment seul.
Ok. Bah écoute, peut-être que ta vie te mènera à expérimenter ça et à du coup redécouvrir une nouvelle aventure. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps, Sam. J'ai une dernière question pour toi, qui est une question qu'on pose à tous les invités de 20 ans d'âge. C'est qu'est-ce que tu aimerais dire à l'adolescent que tu étais ?
J'aimerais lui dire, j'ai réfléchi un petit peu, mais je crois que je lui dirais de ne rien changer. Puisque peut-être que si j'avais changé quelque chose, j'aurais peut-être pas fait Koh Lanta. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est de ne rien changer et d'avoir vraiment fait exactement comme j'avais fait dans tous les domaines. Ça, c'est sûr.
Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ton temps. C'était super de parler avec toi. Bravo pour Koh Lanta.
Bah, merci beaucoup, je vous en prie.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcasts et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.